Lundi 7 octobre, troisième épisode de Sortie de zone. Avec nous aujourd'hui de la presse, Alexandre Pratt, Jean-François Tremblay, du 98.5, Jérémy Rainville et votre humble serviteur, Mario Langlois. Bienvenue tout le monde, bon début de semaine. Salut les gars.
Salut bon Mario.
Bonjour.
Salut Mario.
Avant de dire quoi que ce soit, on va réécouter la fin de notre épisode 2. Une fin qui nous amenait à nous prononcer sur ce qui attendait le Canadien en termes de récolte de points au classement pendant le week-end. On écoute ça, les gars.
Je vous laisse pas filer sans me dire combien de points au classement le Canadien affichera-t-il dans la colonne des statistiques quand on va se réveiller dimanche. Puis lundi, ça aura pas bien ben changé. Là. Mais combien de points au classement donc à l'issue des deux premiers matchs du Canadien, les gars? Vite, vite.
Un. Trois pour moi.
Oh! Une victoire à Toronto?
Oui, monsieur.
Je tranche en deux. Un autre point demain à Toronto, ça va faire un plus un.
Un autre point de perdant?
Un plus un. Merci, messieurs. Il y en a un seul qui a visé juste, Jérémy Rainville. Trois points sur quatre comme possibilité pour le Canadien. Jérémy, alors je te donne la parole en premier, c'est mérité.
Ben, écoute, moi, honnêtement, je jouais sur le 2-2 pour les Leafs de Toronto. Je me suis dit, c'est peut-être une option intéressante pour le Canadien. Mais je t'avouerai qu'on n'a pas trop vu les Leafs de Toronto bien fatigués offensivement. C'est une puissance offensive. Je pense sincèrement que Carey Price a fait la différence dans les tirs de barrage. Pour moi, le match se joue là parce qu'il est un gardien de but qui est extrêmement solide face à Matthews, face à Tavares et face à Marner. Sinon, c'était un peu un match de hockey dans la rue, mais c'était encore une fois extrêmement spectaculaire ce match-là.
Jean-François, t'as pas de prédiction à défendre parce que c'est Guillaume, l'autre représentant de la presse, qui a dit
un
point
pas là du
week-end.
C'est
pour ça. Alors, on l'a suspendu. il ne pourra revenir que vendredi dans le prochain épisode. Alexandre, tu voyais pas un point à l'horizon Toronto pour le Canadien. D'ailleurs, tu étais plutôt fataliste quand tu te prononçais sur la qualité de la défensive du Canadien et tu t'attendais à une catastrophe contre les Leafs.
Moi, je pense qu'il y a eu un montage radio. Là. Il me semble avoir dit 3. Non? Ben, je trouve, honnêtement, 6-5, oui, la défensive a quand même eu ses faiblesses, mais je préfère vraiment regarder le côté positif de cette partie-là. Honnêtement, peut-être la plus excitante depuis 7-8 ans.
Longtemps, oui.
Ah, et c'était absolument phénoménal. Et la prolongation, qui aurait parié sur 3 échappés arrêtés de suite? Marner, Tavares, Matthews, plus 3 tirs de barrage. C'était spectaculaire. Jean-François, tu étais sur place. Hey,
t'étais sur place. C'était quoi l'ambiance?
À 4-1, là, honnêtement, je pense que pas mal tout le monde avait fini d'écrire son texte, les faits saillants des bulletins télé, là, c'était pas mal réglé. Le Canadien touchait pas la rondelle depuis un bon moment. Là.
Oui.
C'était très impressionnant. Mais moi, dans mon compte-rendu du match, moi, j'ai mis l'emphase sur une présence importante. Claude Julien a changé ses trios au début de la troisième période. Ça marchait pas du tout. Claude Julien a été très clairvoyant dans sa décision-là, avait réussi à comprendre un peu qui marchait bien, qui marchait moins bien. Suzuki avait pas un grand match, s'était retrouvé sur le quatrième trio. Domi Drouin, ça peut toujours exploser. On sait jamais. Paul Byron, c'est toujours un plus sur chaque trio. Alors, 10 secondes après le but qui faisait 4-1, c'est Jonathan Drouin qui a marqué un but chanceux, qui a touché le patin de Morgan Rielly sur une grosse montée de Max Domi. Moi, c'est vraiment cette présence-là que j'ai trouvé très importante parce que c'était une présence énergique, un but chanceux, oui, mais un but.
Les gars l'ont dit après le match, Jean-François, tu as eu l'occasion de les interviewer. Les gars se sont regardés au moment d'embarquer sur la glace après le quatrième but des Leafs. Il y a comme eu une conversation juste par le regard entre eux, hein, les gars.
Ben, tout à fait. Ils comprenaient l'importance du moment dans
de
le
faire
match.
Quelque chose,
mais Drouin et Domi, à ce moment-là, dans le match, moi, je trouvais, démontraient énormément d'émotions. Max Domi, on l'a vu ensuite, là, il s'était pogné toute la game, tout le match avec Kapanen. On a vu ce que ça a donné aussi au banc. C'était à la Domi. Mais Jonathan Drouin aussi, il se lançait pour les mises en échec. Il travaillait très fort. Alors, c'était comme logique que ça parte d'eux un peu, cette remontée.
On s'entend-tu sur une chose? Jonathan Drouin déploie, je parle pas de colonne de statistiques, là, déploie le même désir d'avoir la rondelle et d'être impliqué dans le match. Il redevient, puis c'est le temps d'une fin de semaine, il redevient des joueurs les plus populaires de l'équipe.
Il a l'air d'avoir du fun sur la glace. Je pense que c'est ce qui change, là.
Il n'est
pas
brillant.
Oui.
Ça fait du bien. Et les gars, vous parlez de Drouin, là. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que ce qui rend ce gars-là bon, c'est comme vous le mentionnez, lorsqu'il est impliqué, lorsqu'il utilise son physique pour prendre possession de la rondelle. Et quand ce gars-là a l'énergie nécessaire, offensivement, c'est une menace. Là, ça fait deux matchs. Et là, la question, c'est est-il capable de maintenir le tempo? Mais présentement, c'est extrêmement positif. C'est sûr qu'on peut pas tirer de conclusion, mais quand il joue comme ça, selon moi, il met ses atouts de l'avant, puis ça fait toute la différence.
Puis il a pas été parfait, là. Il y a des situations défensives où il aurait pu se faire pincer. Puis écoute, c'était loin d'être un match parfait des deux bords. Les Leafs de Toronto nous ont démontré qu'ils en avaient aussi des carences. Mais y a-t-il un gars qui a un lancé plus menaçant? Y a-t-il un gars qui fait plus peur autour d'un filet? Austin Matthews.
Incroyable.
Ah, ça se peut pas.
C'est incroyable.
Phénoménal.
Écoute, là, je me souviens pas. Vous souvenez-vous d'un gars, tu le voyais arriver proche d'un net, Jérémy, Jean-François, Alexandre, puis lui, honnêtement, il touche à rondelle dans les fins de match quand le match, comme on dit, was on the line, là, quand
ouais.
Tu voulais pas qu'il y ait la rondelle, là.
Brett Hull, peut-être?
Brett Hull, c'est le seul nom qui pourrait me
venir. Malkin, au début de sa carrière, pouvait être menaçant aussi, mais c'est exceptionnel. On est en train de voir un joueur absolument phénoménal émerger présentement là, dans la Ligue nationale. Il risque d'être, sinon le meilleur, en tout cas dans le top 2, dans le top 3 pour les 10 prochaines années.
Ah, il est dangereux.
Ce que je trouve fascinant, c'est ce qu'on appelle le release. Là. Je ne sais pas exactement comment...
La dégaine, comme nom, ça pourrait être
la
ça?
La garnotte.
La garnotte.
La garnotte, exact. Mais
la détente, appuyer sur la détente,
exact,
comme on dit.
Tout est dans le mouvement du tir. Oui. C'est hallucinant. Je ne crois pas avoir déjà vu un tir...
Moi non plus.
...qui est décoché de cette manière-là.
Moi non plus. Avez-vous déjà vu Carey Price, depuis la fameuse ovation de fin de saison il y a 2 ans, plus épanoui, plus heureux, plus leader qu'on le voit en ce moment? Puis, tu sais, le langage corporel de tes joueurs est important. Ça compte aussi. Puis, tu sais, de le voir réagir ainsi. Lui, là, les 5 buts accordés. Il y a du monde qui tweetait pendant le match, là, qui me tweetait. Ouais, monsieur Langlois, les 5 buts accordés pour le gardien le plus cher, alors que M. Chenson gagne juste 950 000. Qu'est-ce que les défenseurs de Price vont dire? Ben, à la fin du match, il a gagné son match, puis il a arrêté les meilleurs canons de la Ligue nationale.
Enfin, il a arrêté pour, genre, 34 millions de dollars. Oui. Je pense à un tir de barrage, quand même.
Non, mais le pire, pas. Oui, Jérémy.
Le pire, ce que je voulais rajouter, c'est ça avait l'air facile en tir de barrage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était tellement confiant, il était bas, il prend la rondelle, il avait quasiment le goût d'y redonner, tiens, essaye-toi une autre fois. Tu sais, on sent que ce gars-là, il a une attitude présentement, il est confiant en ses moyens, puis veut, veut pas, quand ton gardien de but est comme ça, ça donne confiance à l'ensemble de l'équipe. Fait que c'est une plus grande victoire encore quand tu vois que ton leader numéro 1 sur la glace, là, ton joueur le plus important, est vraiment en pleine possession de ses moyens, puis c'est ce qu'on a vu dans les tirs de barrage face à Toronto.
L'avez-vous vu le bras dans les airs, les gars, après le match? Gallagher, il y a eu des belles photos dans la presse puis dans d'autres publications. Là, c'est juste le match numéro 2 de l'année, les gars.
Après le match, c'est généralement Carey Price, c'est pas le joueur le plus
volubile.
Le plus volubile, mais on a eu, je pense, 3-4 bonnes minutes de Carey Price après le match. Et juste ça, pour moi, ça en dit beaucoup sur l'état d'esprit du gardien de but. Mais on parle des 5 buts. Là, on a beau parler des 5 buts, puis je trouve un peu ridicule de revenir sur les 5 buts parce qu'à 4-1, le Canadien au complet était atroce. Il touchait pas la rondelle. Et quand le Canadien a remonté, là, on se tourne vers le gardien de but. T'es payé le gros montant d'argent pour faire les gros arrêts. Il l'a fait. À ce moment-là, il l'a fait. Alors,
comme on demande à Matthews et Tavares de faire la différence sur le bord, ben lui,
Matthews a marqué le but à 5-5 aussi. S'il y a un point du côté des Maple Leafs, c'est que Matthews était à la bonne place au bon moment à la fin du match.
Est-ce qu'il y en a qui ont annoncé le début de la pente descendante de la carrière de Shea Weber à date dans nos 2 premiers épisodes?
Ben, je crois l'avoir fait en privé.
mais
non.
Samedi.
Ouais, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que Claude Julien, donnons-lui crédit, là, il a réagi pendant le match. Là. Si on regarde là, après 4-2, là, 4-1-4-2, Kulak et Fleury ont à peu près pas joué. En fait, Fleury a été le joueur le moins utilisé de tout le Canadien. Et là, il a joué à 4 défenseurs jusqu'à la fin du match avec notamment Petrie et Weber. Je continue de penser que Petrie est le meilleur défenseur de l'équipe. Il jouait quand même 28 minutes. Mm-hmm. Là. C'est quasiment la moitié de la game. Il était sur la glace pour 41 tirs tentés par le Canadien. C'est gigantesque. Mais il n'y a pas beaucoup de matchs comme ça dans une année. Mais Weber a aussi très bien joué, surtout là, vers la fin de la troisième. Ces deux gars-là ont donné énormément à Claude Julien. En fait, il voulait des minutes. Weber l'a dit à la fin de la saison dernière, donnez-moi des minutes. C'est son premier match de plus de 25 minutes depuis le début mars l'année dernière. Il a bien répondu à la commande.
Ben moi, messieurs, juste dire 2 choses sur Petrie dans un premier temps. Peut-être que là, on vient de se trouver quelqu'un envoyé en tir de barrage. Écoute, le gars, tout un lancé du poignet, mine de rien. Là.
J'étais content qu'il n'y ait pas le choix du gars, Jérémy, quand c'est survenu, parce que je ne suis pas sûr que c'est lui qu'on aurait désigné.
Non, mais t'as-tu vu? T'as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait?
Ben oui, mais j'étais très content. Il y a une grande perche, j'avais bien confiance.
C'est un gardien gaucher, Hutchison, ça compte pas. Il tirait du côté du bloqueur, puis par défaut, ça paraît bien parce que c'est le côté de la mi-temps.
Mais okay, continue, Jérémy.
Moi, je réessayerai encore une fois quand tu auras un gardien dans les mêmes circonstances. Mais ça, pour dire, ça, c'est du côté de Jeff Petrie. Dans le cas de chez Weber, Tu sais, puis je lisais les mêmes commentaires sur les réseaux sociaux. Il y en a pendant le match qui trouvaient que chez Weber, il n'était pas rapide, que c'était difficile, puis tout ça. Je pense que l'ensemble de la brigade défensive a connu quelques problèmes. Mais peut-être juste que tout le monde comprenne une chose, c'est que chez Weber a une distance, on appelle ça un reach avec son bâton, qui est tellement grande, qui est tellement capable d'aller mettre de la pression avec son bâton sur le porteur de la rondelle qui vient, c'est que ça crée un rayon alentour de lui, là, un rayon d'immunité. OK, par moment, la rapidité peut le battre, mais sincèrement, vous savez qu'un bon défenseur dans la Ligue nationale de hockey, je parle pas des plus rapides, là, mais je vais parler des plus expérimentés, un bon défenseur est un défenseur qui sait bien tricher. Et Shea Weber connaît, est capable de couper la patinoire, est capable de se placer à la bonne place. Puis quel lancer frappé. Quand ça va frapper le filet, ça va être super bon.
C'est ça que j'allais dire. C'est peut pogner le net de temps en temps.
Mon Dieu Seigneur, c'est incroyable. Il en a fait quoi? 4-5 à côté du filet?
5, je pense.
Ouais. Il y en a un que tu as. La dernière, c'est juste puissance parce qu'elle a marqué par 2-3 pieds. Là, mais
ce que j'ai trouvé intéressant avec... Je continue sur ce que Jérémy disait, oui. Mais après l'erreur de Cale Fleury tôt dans le match, la passe molle vers Nate Thompson qui a mené à un revirement, je pense, de William Nylander. On a vu Shea Weber assis au banc des joueurs à côté de Cale Fleury en train de lui expliquer la vie, comme on dit, lui montrer avec ses mains, là, il mimait des jeux, puis là, Cale Fleury à côté qui hochait la tête, qui était très attentif à ce que Shea Weber lui disait. C'est ça aussi chez Weber. On parle de sur la glace beaucoup l'effet, le tir puissant, le bon reach. Jérémy a tout à fait raison là-dessus. Mais s'asseoir au banc à côté du jeune de 20 ans, et lui dire, regarde, ce que tu viens de faire, là, c'était pas la bonne chose à faire, évidemment, mais c'est pas si grave que ça. Moi, je trouve que c'est des trucs qui vaut cher.
On dirait qu'il agit comme un autre entraîneur adjoint. C'est comme si le Canadien avait un autre entraîneur adjoint, tu sais, qui est un petit peu plus maman avec les joueurs, là.
C'est comme Russell Martin avec les Dodgers, ouais, ces gars-là, là.
C'est un petit peu l'effet que je pense que même le Canadien souhaite que Weber est sur l'équipe. Marc Bergevin était clair, là. Il parle de l'équipe chez Weber, de ce que Weber amène à l'équipe, les intangibles. Je pense que c'est ce qu'il veut dire par ça.
Team first. Équipe en premier. Ouais. That's it.
Mais il y avait vraiment une augmentation du niveau de performance de Weber. Je sais pas si vous êtes d'accord, ouais. entre jeudi et samedi, là. Il a vraiment grimpé d'une coche ou deux. J'en mettrais un autre dans cette catégorie-là, là, puis ça saute aux yeux. Son implication était différente. Je dis pas qu'il a joué un mauvais match en Caroline. Domi a vraiment élevé. Ouais. Êtes-vous d'accord, les gars, le niveau d'intensité était là?
C'est à Toronto aussi, au niveau, c'est à Toronto. Oui. Fait que là, veut pas. Écoute, il y a un tien d'appartenance avec les Leafs de Toronto. Il a tellement dit que Montréal, c'était magique. Veut pas, il devait bien performer. Puis, tu sais, c'était un naturel là-bas, puis il a fait sa job, puis écoute, quel discours à Kapanen qui a fait une boulette monumentale, soit dit en passant, là, j'ai hâte qu'on en parle, parce que j'ai jamais vu ça de ma vie.
Vu
ça. Ben, écoute, Kapanen qui arrive, bâton brisé, qui lance ça sur Petrie, qui est en possession de la rondelle, ça donne un lancer de punition. Je sais pas ce que Kapanen a pu imaginer, ce que c'était pour faire,
Il l'a exprimé après le match, je sais pas ça si t'étais là sens. Pour cueillir, j'ai lu ses commentaires... Si quelqu'un, je peux les résumer, mais il assumait pleinement sa faute. Il expliquait que il était à la fin d'une très longue présence. Il était exténué, un peu frustré aussi, j'imagine, de faire face aux garnottes là, quand même, qui lui arrivaient dessus. Et c'était un peu un geste de dépit, de désespoir qu'il a commis. Puis il dit, j'assume. Sur le coup, je pense pas qu'il a pensé que ça allait, de la manière qu'il l'a dit, là, dans les extraits de guillemets, que ça allait provoquer un tir de pénalité. Mais c'était vraiment un geste. Tu sais, quand on dit l'énergie du désespoir, là, c'était la crampe du désespoir.
Ouais, mais ça fait 4-4, là. Avec ça, là, ça fait 4-4.
Oui. Mais je pense que les Canadiens ont régalisé pareil.
Peut-être.
Honnêtement, je suis pas mal sûr. Tu sais, de la manière que le match se dessinait, mais regarde, c'est comme ça que ça s'est passé. On peut pas réécrire l'histoire, là, tu sais.
C'était une fabuleuse crampe au cerveau, Kapanen. Puis j'ai lu à quelques endroits quelques commentaires qui disaient, est-ce que Max Domi avait besoin à ce moment-là d'en rajouter? Je vais être bien honnête, moi j'ai jamais eu beaucoup de problèmes au hockey avec les échanges de propos virils. Le trash talk, comme on dit, les échanges de propos virils, j'ai pas eu de problème avec ça. Ça prend énormément de confiance en soi, le faire, parce que les contre-coups peuvent être assez durs pour le moral quand tu te fais aller le mâche-patate puis tu perds 4-1 après, ben là, c'est toi qui as l'air d'un épais. Donc, faut que tu aies confiance en toi, faut que tu aies confiance en ton équipe. Alors, tout ça ensemble, moi, je trouve que c'est pas désagréable.
Ça met du piquant dans un match.
C'est important pour
mais l'équipe. Mais il y a des fois où même son équipe va dire, OK, là, ouais. Tone down un peu, là, baisse le ton, tu sais, ça va arriver. C'est arrivé l'an passé à quelques reprises où un débordement d'énergie de Domi servait pas toujours la cause de l'équipe, mais la moyenne t'abonne, hein?
Oui, non, mais moi, je pense que, en effet, ça fait partie de la game. C'est une stratégie. Il y a même des coachs là, qui demandent... Il y a des coachs qui coachent les joueurs à faire ça sur la glace. On le voit dans tout d'autres sports aussi. C'est la même chose au baseball ou au soccer. Domi commence à être pas pire là-dedans, honnêtement. Ouais. Mais il faut juste qu'il ne dépasse pas la main 5 parce qu'à un moment donné, les arbitres, ils peuvent intervenir. Là. Ils peuvent en avoir plein leur casse aussi.
J'ai l'impression que c'est un talent naturel pour Max Domi. Il n'a pas besoin de se faire coacher. C'est un talent naturel, mais quand tu fais ça, il l'a traité d'idiot. Il a dit, regarde, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Il criait à Kapanen. Mais tu sais, quand un but, une passe à ta fiche...
Trop comme toujours... passé, hein?
Ouais, mais tu sais, quand un but, une passe à ta fiche, ça te met en confiance. Puis tu sais, le gars, il est comme ça, il est arrogant. Il sentait que son club revenait dans le match, ça venait de créer l'égalité. Le trash talk a sa place quand t'es capable... Là, je vais utiliser le terme en anglais, mais quand t'es capable de backer sur la patinoire, puis le Canadien est en train de backer. Si ça avait été encore 4-1, ça aurait fait... Mettons, c'était le but de 4-1, je suis pas sûr que Domi aurait parlé de cette façon-là du côté de Kapanen.
Après la rencontre, Jonathan Drouin s'exprimait ainsi sur ce qu'il avait vécu dans cette victoire. Et honnêtement, vous auriez pu avoir le son coupé à la maison. Son visage n'était pas le même, ne dégageait pas la même chose qu'après les matchs préparatoires. Et on va l'entendre.
Surtout un samedi soir Canadien-Toronto, c'était dans mon top 3 des matchs les plus intenses, les plus émotionnels, puis c'était bien le fun de jouer là-dedans. Là. C'est bon pour la confiance parce que c'est des fois il va y avoir un match comme ça qui va te remonter pendant 2-3 semaines que tu vas te sentir bien comme équipe, puis je pense qu'on est capable, de bâtir là-dessus, puis avoir de revenir à ce match-là quand même dans 2 semaines, 3 semaines, si on est dans le 3-1, 4-1, je pense qu'on est capable de venir à ce match-là puis dire qu'on est capable de scorer 3 buts.
Je vous ai fait entendre l'extrait tout simplement pour vous demander, les gars, j'y crois jusqu'à un certain point, je sais pas jusqu'à quel point ça peut charrier une équipe longtemps, mais croyez-vous que cette victoire-là aura un effet sur l'équipe à court, moyen et peut-être à long terme?
J'amène une statistique que je trouve qui parle beaucoup du Canadien. À travers la LNH, si on regarde depuis le début de la dernière saison, toutes les équipes qui ont gagné un match alors qu'ils tiraient de l'arrière après 2 périodes, le Canadien a gagné 8 fois dans pareilles circonstances, sont deuxième dans la LNH pour ça.
Incluant les 2 premiers matchs de cette année, tu veux dire, ou juste l'an passé?
Au début de la 2e période, si le Canadien est en retard, 8 fois, ils ont gagné. Et il y a une seule équipe qui a fait mieux qu'eux dans la LNH
banal,
de ce côté-là. Alors moi, je trouve que ça parle beaucoup sur le caractère. On parle du caractère de l'équipe. Là. Quand tu perds après la 2e période et tu réussis à gagner le match, ça veut dire beaucoup.
Mais l'autre chose aussi, c'est que le Canadien s'était quand même fait blanchir 2 fois de suite dans le pré-saison contre Toronto. Il était même pas dans le match. Et là, dans un match qui compte, une remontée comme celle-là, les Canadiens et les Leafs s'affrontent souvent dans une saison. Moi, je pense que sur le moyen terme, le Canadien va vraiment sortir grandi de cette victoire-là.
Il y a aucun doute. Ça travaille mieux, Jérémy, je pense, hein, dans la victoire.
Je pense que oui, mais tu sais, je pense que tout le monde était dans un vestiaire, que ce soit n'importe quel sport. Ça s'appelle team bonding. Ça veut dire que on ajoute une histoire à notre saison qui est en cours. Puis là, on a le premier match où ça a été tout simplement spectaculaire, un feu roulant d'intensité, de rapidité. Tu arrives au deuxième match, tu perds 4-1, tu arrives en troisième, puis tu es capable de prendre les devants. L'autre club crée l'égalité. C'est spectaculaire en prolongation, puis tu gagnes en tir de barrage. T'es en train de créer une histoire d'une façon collective. Puis quand Jonathan Drouin parle justement que ça va nous aider au courant des prochaines semaines, moi j'y crois parce que c'est quelque chose qui va revenir. Puis les gars le savent. Quand t'as confiance au gars à côté de toi, ça fait en sorte que t'es un club qui devient dur à battre. J'ai pas dit qu'il est imbattable, mais qui devient dur à battre.
Ben l'autre chose intéressante aussi, c'est que le Canadien commence la saison avec 3 matchs sur la route. S'il avait perdu à Toronto après un match nul, puis qu'il avait perdu contre Buffalo, je pense que le retour à la maison aurait été très très difficile. Là, peuvent perdre 5-1 le prochain match. C'est pas super grave. Je pense que la foule va quand même être de leur bord.
C'était une fin de semaine parfaite pour nos équipes montréalaises. Là. Même l'Impact, dans une cause perdue, a gagné son match. C'est pas peu dire. Il y avait vraiment une vague pro-Montréal en fin de semaine. Et juste pour compléter sur le match en tant que tel, 2 éléments que je voulais amener dans la conversation. Paul Byron, envers qui j'ai pas été tellement élogieux pour son premier tir de barrage en Caroline jeudi. Et les entraîneurs veulent pas... Tu sais, ils défendent leurs décisions des fois dans un deuxième match de suite. Ça aurait été facile de dire, mais non, je choisirais pas Paul Byron dans le match numéro 2. C'est qui le premier qui s'en va en tir de barrage? Mais il est pas à la même vitesse que l'autre soir, hein? Il l'a mis dedans. Et l'autre affaire, puis vous pourrez réagir à ça, je vais du même souffle pour vous amener à évaluer ou réévaluer le travail de 2 autres joueurs. On l'a dit, les gars, on a été durs, sévères, peut-être déçus par certains vétérans au camp d'entraînement, impressionnés par des jeunes. Mais là, il y a tellement une océan de différence entre l'intensité des matchs qu'on a cité dans les matchs 1 et 2 et les matchs préparatoires, que je trouve pas que Suzuki et Fleury, tout à coup, ressemblent à des gars qui sont prêts à évoluer sur une base régulière dans la Ligue nationale. Qu'en pensez-vous, Alexandre?
C'est le lot des jeunes. Fleury a vraiment pas eu un bon deuxième match. Je pense qu'il est encore là pour quelques semaines. Je pense pas qu'il va y avoir un changement à court terme. D'autant qu'à Laval, présentement, ça va pas trop bien. On parlait de l'impact, là. Ça commence à ressembler.
Joël Bouchard va brasser ça un peu, là.
C'est ça. Donc, je pense qu'ils sont là quand même pour un bout. Faut leur laisser des chances. De la même façon qu'on a donné à Byron, que Claude Julien a donné à Byron l'opportunité de retourner, s'acheter, racheter son mauvais tir contre la Caroline, il faut aussi laisser de la corde aux jeunes. Tu peux pas tirer la corde après 3, 4 ou 5 matchs. Puis,
c'est pas ça que je suggère, mais vous trouviez pas qu'il avait l'air moins confiant. Puis l'autre affaire, c'est que, sais-tu quoi, Jean-François, Jérémy, les gars, le Canadien gagne ce match-là malgré le fait que tu donnes un lousse de donner de la glace à des gars qui commettent des erreurs qui te coûtent des buts. Puis tu gagnes, t'as tes deux points pareils. C'est pas pire quand même, là.
Ouais, il y a une courbe d'apprentissage normale en ce moment avec les jeunes. Je rejoins ce qu'Alex dit là-dessus. Suzuki a pas eu un grand match. Son trio a pas fait grand-chose. Il s'est retrouvé sur le quatrième trio aussi à un moment donné. Il était de retour, là, à son trio régulier. À l'entraînement avec Lekkonen et Domi, ce qui est, à mon avis, la décision logique, comme Alex disait, c'est de laisser la chance aux jeunes de rebondir. Je mets une parenthèse sur l'erreur qu'il a fait quand il s'est fait enlever la rondelle
derrière le filet
par Moore. C'est le but de Kerfoot. Je mets une parenthèse parce que Ben Chariot n'a pas fait un grand jeu là-dessus. Là. Wow. Il était coincé dans le coin, il fait une petite passe de côté, il met Suzuki dans le trouble. Suzuki n'a pas protégé la rondelle, je suis d'accord avec ça, mais c'était à la base pas une grande passe.
Ouais, mais c'est encore là, j'utilise un anglicisme, j'en suis désolé, mais c'était un move de rookie, là. Il s'est fait prendre par en arrière, il s'est fait lever le bâton. C'est l'expérience. Il va le savoir que tu ne peux pas, en aucun temps, manquer de vigilance quand t'es dans ton territoire. Puis ça, je pense qu'il l'a appris une fois, il va toujours l'apprendre. Ouais. Moi, Mario, je te trouve sévère. Honnêtement, je te trouve. Mais quand tu dis Suzuki et Fleury, les gars, tu sais, est-ce qu'ils sont capables d'évoluer dans la Ligue nationale de hockey? Mario, on va s'entendre sur quelque chose. Ce match-là face à Toronto, soyons honnêtes, là, c'était assez exceptionnel. Même chose pour les Hurricanes. Fait que donc, c'est rare que tu commences deux matchs, le match 1 et 2 de la saison régulière, avec deux matchs aussi spectaculaires. Fait que là, tu les mets dans un contexte, entre autres contre Toronto, une des puissances de la Ligue nationale de hockey. On a tellement parlé du 33 millions qui était en tir de barrage. Mais tu les as ensemble à 5 contre 5. T'es à Toronto, t'affrontes les Leafs, une des puissances. C'est normal, veux pas, que même ceux qui sont pas recrues ont connu par moments et ça a pas toujours été facile. Fait que donc, je me dis, tu sais, c'est normal. Il y avait quelque chose d'exceptionnel samedi, là. Donc, ça se peut que les gars, peut-être, n'étaient pas capables de jouer à la hauteur de nos attentes. Mm-hmm. Mais soyons honnêtes, il y a quelque chose d'exceptionnel.
Ah oui, ça patinait, mais c'est pas le jugement dernier. Puis je vais reprendre une ligne de Michel Therrien. C'est pas une ligue de développement non plus. Puis quand je vous parle de Suzuki puis de Fleury, là, je demeure emballé par leur talent. Là. C'est pas une question de dire tout d'un coup ils sont plus bons. C'est juste, je regarde aussi un autre gars, Kotkaniemi, dont on a vite conclu que là, il était prêt pour la ligue parce qu'il a compté un but en Caroline jeudi. Samedi, je sais pas si vous l'avez vu sur la glace. Là, moi, je le cherchais pas mal. Il a joué 12 minutes, fait que c'était au banc. Je le trouvais plus souvent qu'autrement quand ça comptait. Et ça, c'est la suite logique de l'an passé. Puis, c'est bien beau, c'est bien facile pour un DG de dire on fait jamais... C'est quoi donc la ligne par rapport au gars dans la ligne américaine? On fait jamais... On laisse jamais un gars trop longtemps dans la ligne américaine. On peut juste l'amener trop vite. Quand je regarde Kotkaniemi, je suis pas encore convaincu qu'il n'y aura pas besoin d'un retool dans la Ligue américaine. Puis quand je regarde là, l'allure des matchs de ces débuts de saison, je sais pas combien de temps ça va durer, Jérémy et les gars, mais là, je me dis, tu sais, dans le fond, là, d'en face, le photo finish, là, aux 100 mètres, ils sont en retard d'une coupe de dixième, là.
C'est parce que, Mario, la raison, à mon avis, la raison pour laquelle Suzuki et Fleury sont là, c'est qu'en ce moment... et la raison pour laquelle ils vont rester là, c'est qu'en ce moment, il y a personne qui va venir puis va step up subitement. On l'a vu avec le début de saison du Rocket de Laval. Il y a personne qui mérite une incroyable marque de confiance en ce moment. Ryan Poehling a eu deux matchs très, très ordinaires en bas.
C'est pas ça qu'ils sont là, tu l'as dit.
Sur les autres joueurs, les Charludon, tout ça, Charludon a eu une troisième période correcte. Alex Belzile l'a bien fait, mais je veux dire, à un moment donné, ces joueurs-là vont pas arriver prendre la place de Nick Suzuki. Puis Cale Fleury... Ceux qui restent en ce moment, Follin et Riley, ben, je veux dire...
T'investis dans ces jeunes talents-là en ce moment.
J'ai appelé ma mère pour dire qu'elle ne pouvait pas manquer la prochaine performance de Christian Follin. Donc, moi, c'est tout ça, il faut mettre en
perspective. Je pense que Follin est plus solide dans sa zone, par exemple. Ben, c'est pas spectaculaire, mais oui, Alex.
Ben, juste revenir sur Kotkaniemi. pour moi, c'est un petit peu normal que contre Toronto, il ait peu joué. Il a seulement pris deux mises au jeu en zone défensive. C'est un peu normal. Le Canadien n'a pas le dernier changement. Tu peux leur envoyer Marner, Matthews, Tavares contre lui. C'est pas le genre d'équipe contre qui je m'attendais à le voir jouer beaucoup de matchs. Si on joue contre les Kings à Los Angeles ou les Ducks, ça sera différent. Je pense qu'on va le voir davantage.
Tu sais, 3 points sur 4, Mario. 3 points sur 4 dans les deux premiers matchs. D'après moi, Claude Julien se dit, OK, il y a des priorités qui sont peut-être moins prioritaires. Je veux m'assurer que mes vétérans, mes joueurs qui sont importants dans mon équipe soient en mesure de performer. Et les jeunes, les kids, ils vont suivre le navire, vont embarquer justement, puis vont suivre tout le monde. Moi, je pense que c'est comme ça que ça doit se dérouler présentement. Mais je te dis, quand la victoire est là, il y a des bobos qui font moins mal.
Ben c'est sûr. Puis ça fait rien confirmer que c'est la suite du camp d'entraînement, là. Le nombre d'erreurs qu'on voit pendant les matchs, profitez-en, ça donne des matchs spectaculaires. Mais là, les coachs, les assistants coachs, les coachs vidéo travaillent à tout effacer ça. Puis vous savez qu'ils vont à un moment donné réussir. Mais je dis pas de démissionner tout de suite. Je dis juste qu'on verra, on réévaluera de semaine en semaine. Mais déjà, il y a des indications que peut-être qu'il faudra un jour réévaluer tout ça. Mais c'est vrai que les solutions de remplacement sont pas si évidentes que ça. Puis l'investissement qu'on fait dans ces gars-là va peut-être rapporter pendant l'année même. Je voulais, les gars, attirer votre attention sur ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale. Avez-vous regardé le classement? Ben écoute, ça fait drôle de dire qu'on regarde le classement avec 2-3 matchs joués.
Deux matchs.
Mais 3 matchs dans certains cas. Mais dans l'Est, la plupart des clubs invaincus sont dans l'Est. Et ça donne une indication de la saison qui attend le Canadien, particulièrement dans l'Atlantique, les gars. Faudra pas. Je pense que... C'est qui disait que ça va prendre 100 points plus? Je pense que Danny Dubé disait ça l'autre soir, mais... Là, c'est sûr que c'est jeune encore, mais Détroit invaincu qui affronte le Canadien. Buffalo invaincu. C'est toi, Jean-François, qui nous annonçait que Kruger aurait un effet avec les sabres.
C'est moi qui aime Ralph Kruger, oui. Donc, là, je parais bien en ce moment.
On ressortira la quote à la fin de l'année.
Mais quand même, qu'est-ce que ça vous annonce comme début de saison, les gars?
Ben, je trouve intéressant ce qui se passe à Détroit.
Caroline?
Mm-hmm. Ouais, mais Détroit, c'est impressionnant à date. C'est pas une équipe qu'honnêtement, j'avais vue très, très haut dans le classement. Anthony Manta, une statistique dans ses 10 derniers matchs, 13 buts, 9 passes. Ça fait 22 points en 10 matchs. Il est présentement le joueur de l'heure dans la Ligue. Il a bien terminé la saison dernière. Il excelle avec Bertuzzi et Larkin. Ça va être vraiment intéressant de voir cette ligne-là qui pourrait vraiment éclore. De la même façon qu'on a vu l'année dernière, Colorado éclore un petit peu sortir là, de...
Un trio qui éclate ça. Comme ça, Alexandre Pratt, là, ça change une équipe.
Ben, totalement, en fait. C'est parce que t'as un trio qui est... Donc, que tu ne brises pas, puis là, tu peux jouer avec les autres en dessous. Tu ne cherches pas la combinaison gagnante pour la première ligne. Écoute, 13 buts en 10 matchs, c'est énorme. Je veux dire, il n'y en a plus de joueurs ou presque max 50 buts par année. Tu es sur un pace de 100 buts. Évidemment, il ne continuera pas comme ça, mais je trouve ça très encourageant. Puis éventuellement, c'est un nom, Anthony Manta. Il a juste eu 2 saisons en bas de 50 points, mais c'est un nom, si on se rend en 2022 aux Jeux olympiques, qui pourrait être, je pense, dans la conversation pour faire partie de l'équipe canadienne.
Moi, j'adore ce gars-là. Honnêtement, Anthony Manta a du talent, il a le physique, bon coup de patin, capable d'accélérer, mais tu sais, on lui reprochait par moment des petits passages de nonchalance sur la patinoire, tu sais, mais c'est les gars sont de même. Un gars offensif est toujours... En plus, il est gros, il est grand, c'est toujours un petit peu comme ça, mais ce gars-là a tellement de mains magiques, un lancer. On a parlé du lancer d'Austin Matthews, mais il faut surveiller celui d'Anthony Manta également.
Pas méchant, ouais.
Parce que c'est extrêmement précis. Moi, ce gars-là, je l'adore, je me dis juste que... Tu sais, on dit tout le temps, ouais, mais comment ça se fait que Manta est pas à Montréal, puis blablabla. À Montréal, on n'aurait pas laissé Anthony Manta être Anthony Manta parce que tout le monde doit jouer comme Brendan Gallagher. Fait que là, ça fait que Manta est pas comme Gallagher. Bon, on l'aimera pas à Montréal.
Ils sont maltraités à Montréal, mon Jérémy. Tu trouves?
Non, mais ici, on les aime. Attends, nos super-héros, là, il faut qu'ils travaillent fort, il faut qu'ils déménagent dans la journée, ils marquent 5 buts le soir. Tu sais, on peut pas avoir un gars talentueux qu'une fois de temps en temps, s'ils sont
mais,
pas
mais,
tout le temps.
Non, mais c'est la même affaire pour Manta à Détroit. Là, tu penses-tu qu'il n'a pas été benché par Blaché dans les dernières années?
En fait, c'est peut-être l'avantage qu'il soit à Détroit, c'est que les attentes étaient vraiment beaucoup plus faibles. Hey, ça y en a pris du temps avant d'arriver dans la Ligue nationale. Je pense qu'il y a 25 ans présentement, il a commencé la Ligue nationale à 22 ans. Même en revenant du championnat mondial junior où il était une star, il n'a pas fait le club. C'est sûr qu'à Montréal, il aurait eu plus de pression pour faire le club directement.
Il commence dans la Ligue américaine, lui, en 2014-2015, après 4 années junior. Dans le junior, 22 buts, 50 buts, 57 buts. Là, il arrive dans la Ligue américaine, il joue 15 buts en 62 matchs. Deuxième année, 21 buts en 60 matchs. Je me concentre sur ses buts parce que c'est un marqueur. Ensuite, 10 matchs en Ligue américaine en 2015-2016. 2016-2017, il est 60 matchs en Ligue nationale, 17 buts. 24 buts l'année suivante en 2017-2018. Puis l'an passé, 25 buts en 67 matchs. Il a fini fort, comme Alexandre le disait, Jean-François.
Ce que je trouve intéressant avec Anthony Manta, sa saison est en deux parties parce qu'il a été, opéré à la main entre les deux. Il a manqué une grosse partie de la saison.
C'est vrai, ça.
9 buts, 5 aides en 27 matchs avant sa blessure. Là, il s'est fait opérer. Il a demandé une permission spéciale dans le temps des fêtes de revenir à Montréal chez lui plutôt que de rester dans l'entourage de l'équipe. Il a fait beaucoup de power skating. Il n'a pas touché vraiment aux rondelles, pas touché au bâton. Beaucoup de power skating. Ça a été, il me racontait que ça lui avait vraiment servi de ressourcement. Il avait retrouvé beaucoup de bonheur, beaucoup d'allégresse dans tout ça. Et à son retour au jeu, fin de saison, 16 buts, 18 passes en 40 matchs. Après ça, un excellent championnat du monde. Et après ça, on se prolonge dans cette saison-ci. Alors, ça a comme été un changement de paradigme un peu pour Anthony Manta. Puis, il me racontait aussi que la relation avec l'entraîneur Jeff Blashill, qui est un entraîneur, si on en parle à Xavier Ouellet, qui est pas nécessairement un entraîneur apprécié de tous, mais Anthony Manta m'a raconté que la relation avec l'entraîneur avait changé. Pour toute l'équipe, les vétérans avaient commencé à faire comprendre que c'était pas possible s'entraîner les jours sans match, les matins de match en plus, qu'à un moment donné, il fallait doser un peu tout ça. Alors, je pense que...
Et l'arrivée d'Eiserman aussi, j'imagine, pour superviser tout ça.
Évidemment, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe avec les Red Wings, en effet, mais je ne l'avais pas vu venir non plus. Là. Non. J'ai de l'air fin. Là,
mais la saison est jeune aussi, les gars. Je pense qu'on doit se mettre un chill-out sur tout. Là, comme, mais c'est sûr qu'il y a des tendances qui sont prises tôt dans le calendrier. Parlant de tendances, il y en a un qui est en voie de connaître. Il a connu une bonne saison l'an passé. Mais les gars, si je vous amène aux pires échanges réalisés par Pierre Dorion, avec les sénateurs d'Ottawa, celle de Zibanejad pour Derek Brassard, là, c'est fait passer un méchant sapin, hein.
Mais là, tu prends le pire moment parce que Mika Zibanejad est en train de révolutionner le hockey.
Ben, moi, je l'avais pris en deuxième ronde dans mon pool de hockey, quand même.
Bon. Un visionnaire. Non, mais bravo.
On a aucune preuve de ça.
Pas la moindre preuve. Y a-tu quelqu'un qui peut en dire autant ici?
Ben, j'ai pris Manta en première ronde.
Ah!
Mon Dieu!
Ben donc, là, t'es bien parti cette année, en tout cas.
Oui, c'est pas trop pire.
Hey, il y a 3 matchs de jouer. On va s'en reparler. Moi, je vais voir les stats de ce pool-là. Officiellement, voir si on se fait pas bourrer. Mais c'est vrai que c'est 2 bons choix en début d'année.
Je sais pas si vous avez vu que Derek Brassard lui-même a commenté sa transaction hier sur sur un podcast des Islanders, le Island Ice Podcast d'Andrew Gross.
Non! Rapporte-nous donc ça!
Et il a dit, et je le cite, « When you look back now, it didn't make any sense.
» Mais c'est bon qu'il le dise lui-même.
Alors voilà, tout ce qu'il y a à dire sur cet échange est dit par le joueur lui-même qui comprenait pas l'échange.
Incroyable. Et il y a des échanges que Dorion était obligé de faire, contraint de faire, mais dans ce cas-là, c'était de son plein gré. Là. Lui, il pensait qu'il améliorait son équipe à ce moment-là. Hein. Zibanejad, qui est en tête des marqueurs de la Ligue nationale en ce moment.
Il allait chercher un joueur local aussi, Derek Brassard. On sait que la réalité francophone des sénateurs est importante. On va aller chercher des partisans de l'autre côté de la rivière des Outaouais. Il y a toujours ça aussi qu'il faut garder en tête.
C'est difficile à dire. Des fois, le directeur général aussi se base beaucoup sur son équipe de recruteurs. Évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans la pièce, mais je suis en train de lire le livre de Serge Chavard, la biographie de notre collègue Philippe Quentin, qui est vraiment excellente. Là. Un excellent cadeau de Noël pour ceux qui en cherchent un, et dans laquelle Serge Chavard revient sur l'échange de Chris Chilios. Des années qu'on se demande pourquoi Chris Chilios a été échangé contre Denis Savard.
As-tu appris quelque chose?
Oui, quand même, en fait. J'avais entendu une autre version qui n'est pas nécessairement répétable d'aujourd'hui, mais il semble que le Canadien avait fait des tests médicaux à Chilios et que son genou, selon l'équipe, était fini. Et il lui donnait 1 an et demi ou 2 ans à jouer. Je pense qu'il en a joué 20 autres après.
Il a joué 3000 matchs après.
des fois, on prend des décisions sur la vie d'une personne qui a du mérite, puis c'est tout simplement pas la bonne information.
1651 matchs.
C'est incroyable.
Une petite erreur.
Mais tu sais, les transactions, c'est facile de les regarder après et d'évaluer, tu sais. Mais quand t'es dans le feu de l'action, quand c'est là, puis j'apprends rien à personne, là. Sauf que nous, on fait ça, on regarde les transactions par la suite, puis on se dit, finalement, ça n'a pas été une bonne transaction. Mais quand t'es là, quand t'es dans le feu de l'action, t'as souvent des tenants et aboutissants que les gens en général ne connaissent pas. C'est difficile. À mon avis, là, moi, c'est une job que je ferais pas parce que ça serait des décisions qui seraient complètement émotives, puis d'après moi, je me tromperais à majorité.
Quand le Canadien a acquis Philippe Dano, là, je me souviens des réactions, c'était pas très positif, là. T'sais. Philippe Dano, il était même pas dans la Ligue nationale.
Encore faut-il savoir qui réagit. T'sais, c'est comme dans les deux premières périodes sur Twitter samedi soir, là. s'il y en a qui pouvaient effacer tout ce qu'ils ont écrit, ben c'est, il y a moyen de le faire là, mais
des tweets qui ont mal vieilli ce matin.
Il y a des tweets qui vieillissent mal les soirs de match. Jeff Petrie aussi, hein, Dano et Petrie là, dans les acquisitions faites par le Canadien, dans le cas de Petrie, il fallait fallait-il le convaincre de demeurer ici.
Mais là, c'est intéressant Petrie parce que Marc Bergevin m'en a parlé le mois dernier, c'est quelque chose que j'ai pas écrit mais qui est de la bonne information à savoir. Il m'a dit que un an après avoir échangé, quand ils ont échangé Petrie, quand ils sont allés chercher Petrie, ils pensaient qu'ils étaient en compétition contre plein d'autres équipes dans la Ligue nationale. Ils ont su un an après qu'ils étaient tout seuls et les autres équipes se sont mis à appeler Marc Bergevin pour dire hey, félicitations Marc, bon coup. Nous, on y a pensé, mais il y avait le petit on n'est pas sûr de Jeff Petrie. Il paraît vraiment très, très bien, Marc Bergevin, de cet échange-là.
Et eux pensaient qu'il y avait une compétition, c'est pour ça qu'ils l'ont payé cher, mais je peux vous dire qu'un gars qui est DG dans la Ligue nationale aujourd'hui, qui nous disait au lendemain de cet échange-là, qui nous avait dit à nous, vous allez découvrir le vrai Jeff Petrie, comme quoi il avait vu quelque chose en lui pour décider de l'amener ici. Mais je reviens à Serge Chavard. Le Canadien doit être content d'avoir gagné deux matchs alors que le livre de Serge Chavard sort. Puis je dis pas que ça veut dire nécessairement controverse anti-canadien, mais Serge a toujours été très, très fort, convaincant et convaincu qu'il fallait beaucoup de Québécois dans une équipe bleu, blanc, rouge ici à Montréal. Et s'il fallait que le Canadien soit 0 points sur 4, je suis convaincu que ça résonnerait plus fort. Mais moi, j'y crois même quand le Canadien gagne sans beaucoup de Québécois dans l'alignement. Mais pensez-vous que veux pas ça, la sortie du livre va-t-elle relancer? Je sais que tu te prépares à l'interviewer. Moi, je l'aurai demain aux amateurs de sport. Est-ce que ça va relancer la discussion, Alexandre?
Ben, je pense que si le Canadien avait aucun point sur 4, aujourd'hui, on ferait l'émission complète là-dessus.
Ouais.
Maintenant, c'est 3.
Mais on va être fair pareil. C'est-à-dire, on y croit, on y croit pas qu'ils perdent ou qu'ils gagnent.
Non, tout à fait.
Moi, j'y crois peu importe l'affiche au classement.
Ben, moi aussi, j'ai écrit là-dessus il y a deux semaines et je pense que ça reviendra jamais comme c'était avant.
Ben,
des clubs avec 15 Québécois, ça n'existera plus pour 3 raisons. Là, en gros, la masse salariale. Le plafond salarial, ça n'existait pas à l'époque quand même. Ensuite, il y avait quasiment juste des Québécois qui jouaient au hockey, des Ontariens. Là, jusqu'en 1975, c'était pas mal ça. Tu jouais au hockey de Thunder Bay à Sept-Îles. Et troisièmement, maintenant avec le repêchage universel, les autres équipes peuvent prendre des bons. Ceci dit, qu'un seul Québécois a été repêché dans les 10 dernières années et a réussi à faire le Canadien, c'est aussi un trépied blanc. Ils ont beau en repêcher 13, 14 ou 15, s'il y en a juste un qui a joué un match dans la Ligue nationale, qui est Charles Hudon, on a perdu des années de développement ici.
Il faut remonter à Guillaume Latendresse pour le dernier joueur québécois repêché et développé par le Canadien. Et avant ça, c'est Maxime Lapierre. Entre-temps, comme disait Alex, il y a eu Charles Hudon qui est le meilleur entre-temps, puis il y a eu Louis Leblanc, Gabriel Dumont qui sont
ça fait pas beaucoup là, sur 15 ans.
Non, ça fait vraiment pas beaucoup.
Si on prenait Serge Chavard puis on le place comme directeur général aujourd'hui en 2019, je pense, puis ça c'est mon opinion qui est bien personnelle, mais je pense que la pression de gagner serait beaucoup plus forte que la pression de trouver des Québécois. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, tu es pris pour gagner, puis trouve du monde pour gagner, puis dans le plafond salarial, il faut que ça rentre dans ta masse salariale. Et malheureusement, il y a d'autres clubs également qui voient le talent de certains Québécois. Parlons d'Anthony Manta avec les Red Wings de Détroit. Je pense que M. Savard serait lui aussi un peu menotté pour essayer d'avoir un club compétitif et gagnant.
Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que Serge Savard, c'est dans ses valeurs personnelles. Ça vient de son enfance, là, ce désir-là de faire la promotion des Québécois.
Il aurait pris des décisions en conséquence au repêchage.
Absolument. Ouais. Puis c'est ça. Je pense que d'abord, sa règle, c'était en première ronde, on repêche le meilleur joueur disponible et après, on repêche des Québécois. Il y a eu des années terribles là-dessus, là, by the way. Là, 1989, l'année où les Russes sont rentrés dans la Ligue, là, il y a eu Fedorov, Buré. Puis, il est passé complètement à côté là, avec des Québécois dont on n'entend plus maintenant.
Tu peux pas être aveuglé là, juste par ça. Mais
je veux juste ajouter un point. Mais ce que je veux ajouter, je comprends Alexandre, puis ça, c'est clair. Puis je pense que ça fait partie de l'ADN de Serge Chavard. J'en suis convaincu. Mais aujourd'hui, à mon avis, le terreau de joueurs québécois n'est pas aussi florissant qu'il l'était à l'époque.
Ça n'empêche pas des équipes d'en avoir plus que le Canadien depuis plusieurs années, Jérémy.
D'accord,
d'avoir du succès. Pittsburgh, Philadelphie, je dis pas à chaque année, mais il y en repêche, Tampa Bay, puis il y a les Ducks d'Anaheim, ils ont Comtois qui grimpe, puis il y en a un autre. Il y en a dans la Ligue. Il y en a que tu peux pas repêcher parce que c'est pas ton ordre de repêchage. Mais ce que je veux te dire, je te le relance parce que je pense que ça c'est pas intégré dans ta notion de... C'est sûr que la victoire, t'as raison, Jérémy, c'est sûr qu'il faut gagner. Puis bon, quand on gagne, là, il y en a toujours un pour dire, hey, on s'en fout d'avoir des Québécois ou non, mais moi, je m'en fous pas parce que j'aime ça me reconnaître dans cette équipe-là. Puis je vais te dire pourquoi je pense que c'est une équipe. D'ailleurs, ils ont gagné quoi avec peu de Québécois dans l'alignement depuis 26 ans? Ils ont rien gagné. Bon, fait que personne nous a prouvé le contraire. D'une part, ils ont rien gagné. Puis l'autre affaire, c'est quand tu as plus de Québécois, pas toujours dans des rôles clés. Des fois, ça peut être ton 22e joueur là, qui est sa passerelle. Mais quand tu en as un certain noyau, moi, je pense qu'il y a un intangible là-dedans qui fait que. Puis c'est dur à prouver en stats anciens à ça. Je pense que ça joue. Tu as plus de gars qui ont ça à cœur que des gars qui sont encore.
Oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, je te parle de joueurs qui sont importants dans ton équipe. Là. Vincent Lecavalier, c'est un choix de première ronde du Lightning de Tampa Bay.
Ceux-là, c'est sûr.
Non, mais Marc-André Fleury, c'est un choix de première ronde avec les Penguins de Pittsburgh. Je veux dire, l'occasion d'avoir des choix de première ronde n'a pas été légion pour le Canadien de Montréal. Des choix de première ronde très hauts, là, ça n'a pas été légion pour le Canadien de Montréal. Et non. Je veux juste dire que, selon moi, le terreau est moins florissant aujourd'hui en 2019 qu'il a pu l'être dans les années 60, 70, 80, à la limite 90, là, et début 2000. Sauf que on a fait des mauvais choix chez les Canadiens. Je dis pas que le Canadien, je n'excuse pas le Canadien, je fais juste dire que, à mon avis, c'est moins facile aujourd'hui d'aligner les meilleurs Québécois disponibles que ce l'était au temps où Serge Chavard a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien en 93.
Je vais pour participer au débat.
Ah ouais, Jean-François, drape les gants.
En fait, c'est que j'ai toujours été tiraillé des deux côtés sur cet enjeu-là des Québécois, parce que c'est sûr que j'aimerais en voir beaucoup avec l'équipe, comme évidemment partisan de hockey québécois. Logiquement, je me rappelle des belles années du Canadien où il y avait la moitié d'équipe qui était des Québécois. Je me rappelle toujours qu'il y a 30 équipes qui sont dans une culture. Dans la même culture, et il y a une équipe qui est dans une autre culture, qui est donc le Canadien. Mais j'ai un tweet d'Andrew Zdarnowski, qui est un journaliste qui s'intéresse beaucoup à la Ligue américaine, qui a envoyé il y a quelques jours, qui disait que l'année passée, dans la LNH, il y avait... c'est le Canadien qui a eu le plus de matchs joués par des joueurs québécois nés au Québec à travers la Ligue. Donc, 274 matchs ont été disputés par un joueur québécois.
Et, ils ont eu une meilleure année que la précédente, d'ailleurs.
Ben oui, le Canadien était premier devant le Lightning de Tampa Bay. Et pour les points marqués par des Québécois, il était deuxième dans la Ligue derrière la Floride.
Mais la théorie de Serge Chavard, en fait, c'est que qu'il soit Québécois ou peut-être moins Québécois, s'ils habitent à Montréal l'été, ils vont avoir les succès de l'équipe plus à cœur. Loin des yeux, loin du cœur, c'est un petit peu normal. Là. C'est comme ça dans toutes les sphères de la société.
C'est sûr.
Puis c'était un petit peu la théorie de Serge Chavard. C'est pour ça qu'il adorait avoir même, les par exemple, Peter Svoboda qui habitait à Montréal. Peter Svoboda était plus impliqué quand il habitait à Montréal.
Mm-hmm. Mais pour revenir, juste pour compléter, c'est sûr, Jérémy, que si tu parles des choix de première ronde, là, c'est sûr que c'est rare que le Canadien ait eu l'opportunité de mettre la main sur ces gars-là. Je parle plutôt de joueurs de profondeur dans les rondes subséquentes. Mm-hmm. Place à la musique, les gars. Mine de rien, ça fait déjà au-dessus d'une demi-heure et même davantage que nous discutons avec beaucoup de vigueur. Et je sais pas si ça va devenir la signature de nos fins de balado. Mais les gars, deux matchs d'ici notre prochain épisode. Combien de points sur quatre dans les deux prochains? Deux matchs en deux soirs. Buffalo et Détroit à la maison. Alexandre Pratt.
Deux.
Jean-François.
Je vais avec deux aussi.
On tranche la poire en deux, c'est le cas de dire. Jérémy, va-t-il nous en annoncer quatre?
Non, je vais avec une défaite à Buffalo. Victoire contre Détroit à domicile.
Trois points en ce qui me concerne pour le Canadien. Et on s'en reparle vendredi, les gars. Bonne semaine, ça a été bien le fun. C'était Sortie de zone.